Ce matin, tu nous ramènes le budget fédéral. Pour quelle raison?
Le directeur parlementaire du budget nous ramène sur terre, Paul. Ça m'a pris un petit délai.
OK, alors explique-moi ça.
C'est parce que il dit, dans le fond, vous allez dépenser au fédéral 101 milliards sur 3 ans pour relancer l'économie. Mais si on veut être bien honnête, il y a 32% des dépenses là-dedans qui sont pas vraiment de la relance puis de la stimulation économique. C'était dans votre budget, il y en a pour tout le monde, le bar est open. Et donc, ça pourrait affecter la capacité du fédéral à non seulement dépenser de façon récurrente dans le futur d'un des programmes, mais le forcer à augmenter les impôts ou couper dans les dépenses s'il veut faire ça. Donc, évidemment,
mais comment il détermine, lui, que c'est pas une dépense pour stimuler l'économie?
Mais il y a plusieurs facteurs, mais prends un exemple.
Ouais.
S'il regarde le taux de chômage avant, puis pendant la pandémie, puis après, bon, là, il peut regarder les tendances du taux de chômage, le nombre d'emplois créés, et dire, regarde, si tu mets, par exemple, pas le 10 millions pour aider un groupe communautaire, ben c'est sûr que c'est des mesures sociales qui ne sont pas, par exemple, des mesures qui sont pour la relance économique, mais qui peuvent rentrer dans la définition budgétaire de relance économique quand ils l'ont présenté. Donc, si c'est la seule façon d'aider à de la relance économique, c'est aider à l'emploi. Donc, ça va être de la formation, ça va être aider le financement, ça va être aider la création d'emplois, mais il y a un mouvement naturel d'emploi qui va se faire. Quand on va être vacciné, moi c'est ce matin, quand on va être vacciné, qu'il va y avoir des opportunités d'emploi, qu'on va avoir la baisse de l'aide fédérale, un retour à la quasi-normalité, les gens ont des modes de vie à faire survivre, des maisons à payer, de l'ambition de vie, des désirs. Donc,
mais OK, veux me dire dans le fond que le fédéral, le tiers des dépenses, c'était des bonbons.
Le tiers des dépenses étaient des dépenses non attribuées, disons, à la relance, mais qui ont rentré dans la définition de relance. Et on s'en est servi, c'est ça qu'il nous dit implicitement. Et quand on dit on pourrait augmenter les impôts...
Avant, là, peut-être que sans cet argent-là, pour bien des gens, ça aurait été des périodes, je parle sur le plan personnel, bien difficiles. PCU, là, je comprends qu'il y a eu des abus, puis de la fraude, puis tout ça, mais...
Ah, ça aurait été l'enfer.
Ben, ça aurait été un cauchemar.
On parle des 100 milliards qui s'en viennent, pas ce qu'on a dépensé jusqu'à maintenant, mais les 3 ans de stimulation économique. Donc, le directeur parlementaire dit, si vous pensez retourner au taux de chômage pré-pandémique l'an prochain, est-ce que vous pouvez dire que vous dépensez 100 milliards pour ramener l'économie sur 3 ans? Ça fonctionne pas. C'est un peu ça, sa réflexion. Et on verra ce que ça donne. Mais quand on dit
pas obligé de dépenser autant.
C'est ça, puis si vous dépensiez autant, dites pas que c'est pour la stimulation économique. C'est peut-être un peu ça.
Oui, mais là, tu parles à des politiciens, toi.
Oui, je sais qu'il y a...
Il y a des politiciens qui s'en vont en élection.
Ben, Paul, je trouve que t'es de mauvaise foi.
Non, mais... Ah, les gars. C'est quand t'es rendu, oublie pas dans les mesures d'envoyer directement le chèque.
Oui, le 500 $ c'est parce qu'on voulait aider le monde, tu comprends? On voulait pas leur mettre ça à chaque mois pour payer leurs dépenses. On voulait que ce soit un chèque au mois d'août précis avec la feuille d'érable dessus puis que les Canadiens soient reconnaissants.
Parle-moi donc de Uber.
Oui, Uber. Donc, Uber, il y a une classification des chauffeurs en Angleterre qui a fait mal. C'est-à-dire, on a dit, écoute, on va provisionner 600 millions de dollars américains parce que là-bas, les chauffeurs sont vus comme, disons, des salariés, non plus comme des entreprises, hein, des travailleurs autonomes. Et le titre, ce matin, chutait avant l'ouverture des marchés de 3-4%. Mais ce que ça veut dire, c'est que ça veut dire que tu paies des avantages sociaux, retraite, vacances, que tu payes le minimum de l'État là-bas selon les règles qui existent en Angleterre. Mais ça fait mal à Uber sur un autre point de vue. C'est qu'Uber a dit, pendant la pandémie, nous autres, on s'en est bien sortis. On a peut-être, oui, vu 38% des transports de personnes baisser, mais on a augmenté les livraisons de 166%. Donc, Uber a eu beaucoup plus de résilience que c'était prévu par les analystes. D'ailleurs, l'action avait vraiment été démolie en bourse au début. Et là, on est à un niveau plus élevé qu'avant la pandémie. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que là, si l'Angleterre devient modèle pour d'autres pays, d'autres États, et de dire les chauffeurs Uber sont salariés, ça fait mal. Il y a eu le gros débat en Californie, mais pensons-y. Imagine, présentement, le Uber dit à un chauffeur, paye ta voiture, prends le risque d'affaires, prends le risque d'assurance, prends le risque de ta vie, prends le risque de ne pas faire d'argent. On fait juste une commission sur ton travail, le travailleur autonome. Mais si ça devient, écoute, je te paye des avantages sociaux, des vacances, et je prends un risque d'affaires sur ton revenu, Et là, Uber, son modèle qui était si beau, si magnifique, si capteur de valeur, est beaucoup moins intéressant au niveau corporatif, au niveau des actionnaires. Et pour le salarié ou le travailleur autonome, là, il se dit « Aïe, aïe, OK, là, le marché de l'emploi me dit que je devrais être salarié. » Alors, il y a tout ce débat-là qui est important pour Uber, parce que là, on fait pas d'argent, on fait une petite perte de 108 millions pour le trimestre. Mais s'il fallait que tous les États du monde fassent comme l'Angleterre et disent « On va mettre les chauffeurs Uber salariés », le modèle d'Uber...
Ben, la question, c'est est-ce que quand on est un chauffeur Uber, on est un employé de Uber ou si on est un partenaire, un sous-traitant avec notre auto?
Exact. Mais Uber te dit quand même où aller. Mais là, les gens vont dire « Ouais, mais le chauffeur de taxi aussi, il est travailleur autonome. » Puis dans le fond, « Ouais, mais il prend... » Tu sais, il y a comme une petite nuance importante, tu sais. Te souviens-tu, le chauffeur de taxi, il prenait l'appel. « Oui, j'y vais. Oui, je le prends. Oui, je... » Tu sais, il y avait une allocation, mais il y avait une certaine autonomie. Avec Uber aussi, tu as une autonomie de prendre ou non l'appel, de commencer ou finir. Mais il n'en demeure pas moins que c'est une entreprise qui t'engage. Tu as un lien direct avec elle. Tu n'es pas disponible pour faire autre chose en même temps.
Mais c'est intéressant de voir à Montréal quand même qu'il y a des compétiteurs là, qui... évidemment, demeure de petits joueurs encore. Mais tu sais, c'est une approche un peu différente.
Mais il y a la coopérative.
Eva, ouais.
Eva, qui est intéressante parce que, dans le fond, elle est locale. Elle veut mieux traiter les chauffeurs sur la commission.
Exact.
Mais Uber a deux avantages. Un, le volume pour l'instant. Le budget, parce qu'ils ont brûlé là, des milliards de dollars encore l'année passée. Et l'autre point qui est intéressant, c'est l'intelligence artificielle. T'sais, avec ce qu'on appelle le Uber Pool, par exemple, l'espèce de le covoiturage, parce qu'il calcule ton trajet, puis là, oups, il y a un autre appel, on va embarquer une autre personne là-dedans. C'est là qu'on s'en va un peu partout. Donc, il va falloir que les concurrents soient capables d'accoter ce service-là.
Merci, monsieur. Bonne journée. Salut. 7h23.